Le gang des hystériques. Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité.
La plupart d'entre vous le sentent.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements en détruisant.
Nous marchons aujourd'hui, c'est pour affirmer haut et fort que nous existons, que nous sommes fiers, que nous sommes magnifiques et que nous continuerons toujours à nous battre.
Du gang des hystéries. Donc on est là avec Silver.
Hello.
Et Flo.
Hey.
Et moi-même Loïse. Donc vous pouvez, on est sur Micro Rebelle, donc vous pouvez nous retrouver sur le site de Micro Rebelle ou bien sur PFM 99.9 les 3e samedi du mois à 11h30, les mercredis à 20h. Et si vous êtes un peu insomniaque, entre le vendredi et le samedi d'après à 1h du matin. Super. Donc aujourd'hui, notre émission, elle va parler. Donc tout d'abord, on va commencer par un petit agenda, des petits conseils lecture, etc. Et puis après, on fera une émission autour de la séduction et des violences, de faire la différence un peu. Et notamment, c'est un peu une émission en réaction aux dernières tribunes qu'il y a pu avoir, la tribune des 100 femmes qui demandait le droit d'être importunée ou bien d'autres choses comme ça, le hashtag MeToo, balance ton porc, etc. etc. Mais on va peut-être commencer avec un petit agenda. Ok. Je vais peut-être commencer avec ce qui va se passer au LAG.
Ouais,
donc au lac de Liévin, donc le lieu autogéré de Liévin, accueille Adeline Lépiné pour un temps d'échange et de réflexion sur l'éducation populaire. Est-elle émancipatrice ou un outil de conditionnement? Jusqu'où peut-on s'adapter sans déchoir au système pour le transformer? Et donc ce sera le samedi 10 février à 10h au lieu autogéré de Liévin. Voilà. Et deuxième chose, le mercredi 21 février, on a au centre, à la salle Barra, donc dans le quartier à Liévin des Marichelles, il y a la restitution d'un groupe de réflexion et de personnes de l'association Passerelle. Donc, il y aura du théâtre, de l'écoute audio, une petite expo de scrapbooking, etc. Vous pouvez venir nombreux et nombreuses. Donc, c'est le 21 février à partir de 15h. Et puis, je te donne la parole, Flo, pour le...
Alors, tous les premiers vendredis du mois, on a le bar LGBT dans les locaux du planning familial 62 à Lens. C'est à partir de 17h, il n'y a pas d'alcool, donc on a des jus de fruits et on a des jeux de société aussi. Et puis, on peut s'y retrouver pour débattre, discuter, tout ça, entre nous.
Carrément. Et pour continuer du coup sur le planning familial, nous vous invitons le 23 mars 2018 donc à notre assemblée générale. Ça sera donc à 18h dans nos locaux. Pareil, c'est 45 rue François Gauthier à Lens, à la maison des associations Michel Darras. Et ça sera l'occasion pour vous de découvrir l'association si vous n'êtes jamais venu ou de retrouver les militantes et militants et pourquoi pas vous impliquer avec nous dans une association féministe et cool du Pas-de-Calais.
Yay, youpi. Et puis vous pourrez nous voir en chair et en os. Sinon, plus pour ce qu'on a pu lire ces derniers temps. Alors, on a un peu une sorte de revue de ce qu'on a lu, vu ou écouté qui nous a fait kiffer dernièrement. Et alors moi, je suis venue avec un bouquin qui s'appelle « Se défendre, une philosophie de la violence » de Elsa Dorlin. Donc c'est un bouquin, donc faut peut-être situer Elsa Dorlin, qui est une universitaire parisienne qui fait des études de genre et elle travaille beaucoup sur l'idée des croisements, des dominations entre racisme, sexisme, homophobie, etc. Et notamment aussi les questions de classe. Mais elle travaille beaucoup là, dans ce livre-là sur comment on a construit des figures légitimes ou pas légitimes d'utiliser la violence. C'est-à-dire qu'on a construit l'idée que certaines personnes dans nos sociétés pouvaient utiliser la violence et d'autres n'y avaient pas droit. Et aussi comment des personnes deviennent donc indéfendables par la justice du fait qu'elles n'aient pas le droit d'utiliser cette violence. Et on fera des liens avec ce livre de toute façon, je pense, dans cette émission. Et après, elle part sur l'analyse des mouvements d'autodéfense plus largement, mais que ce soit de l'autodéfense qui soit mis en place par rapport à l'histoire des ghettos juifs à Varsovie, ou bien notamment à travers le Krav Maga, ou bien sinon l'autodéfense des personnes racisées, ça veut dire qui ont vécu le racisme, ou bien la mise en place d'autodéfense par les femmes, et elle questionne ça, et elle va jusqu'au bout, elle délie. C'est hyper chouette à lire, et c'est plein d'histoires, elle donne toujours plein d'exemples, même si voilà, son écriture peut être un peu parfois floue, les exemples qu'elle donne nous éclairent toujours. Je passe le micro à Domnal qui veut nous parler d'une super BD, je crois.
Oui, alors, du coup, je suis venu avec Les Sentiments du Prince Charles de l'autrice suédoise Liv Strömquist. Je répéterai le nom parce que je le prononce très mal. Et donc, du coup, c'est une bande dessinée qui a pas mal en lien avec ce qu'on raconte aujourd'hui dans notre sujet. C'est une BD théorique, c'est pas vraiment quelque chose avec un fil narratif évident ou avec des personnages principaux. C'est vraiment, en fait, elle va nous parler des relations amoureuses, de la norme de l'amour, de tout ce qui est autour de ça, de ses origines, de l'origine du mariage, de notre conception, de tous ces principes. Et elle va le faire donc en bande dessinée, en le vulgarisant au possible. Elle va prendre pas mal d'exemples de culture populaire. Elle va beaucoup parler de séries américaines et donc aider et de ce que ça nous envoie comme représentation de l'amour, de qu'est-ce que c'est le couple, qu'est-ce que c'est une rupture, qu'est-ce que c'est la monogamie, ce genre de choses, et la place du coup du patriarcat et du sexisme dans tout ça. Et elle le fait avec beaucoup d'humour, c'est à crever de rire, c'est quelque chose qui est, en tout cas pour moi, qui était vraiment fondateur dans ma façon de voir les relations de couple, et c'est vraiment je vous recommande cette bande dessinée. Donc Les Sentiments du Prince Charles de Liv Strömquist aux éditions Rackham. Et je passe le micro à Florence.
Alors moi aussi, j'ai lu une BD qui m'a vraiment mise sur les fesses, si je peux dire ça comme ça. Ça s'appelle Une case en moins de Helen Forney, qui raconte en fait l'histoire, sa propre histoire. Elle est autrice de BD, illustratrice, et elle est bisexuelle et elle traîne pas mal dans les milieux queer, féministes, etc. Et un jour, elle apprend qu'elle est bipolaire. Donc le diagnostic tombe. Et ça raconte justement tout son parcours et la manière dont elle va tout doucement se faire soigner, quels médicaments elle doit prendre, quels sont les ajustements qu'il va y avoir, quel est le rapport entre sa maladie et son art, sa maladie, ses rapports sociaux, etc. Et voilà, donc c'est vraiment un livre qui parle de la bipolarité et qui est super percutant, super touchant et qui, moi, m'a vraiment énormément touchée, et donc je le recommande très très fort. Du coup, c'est Une case en moins de Helen Forney, et c'est une BD.
Yeah. Super. Alors, vous avez quoi lire là pour ces prochains temps, hein. Super. Ce que je vous propose là, c'est qu'on fasse une petite pause musicale avec Grâce et Volupté Van Van, Amour furieux, et puis à tout de suite pour notre discussion enflammée sur séduction et violence.
Sans avoir l'air trop excessive, mes pensées sont exclusives. Arrache-moi les incisives. Je voudrais que ça dure longtemps. Je voudrais qu'on prenne le temps. Je suis cinglée très certainement et t'apprécie fortement. Je veux jamais t'en vouloir. Je
veux pas pleurer dans le noir. Je voudrais ne pas penser à tout ce qui peut me faire flipper. Tout ce qui peut me faire flipper. J'aime bien comment tu me sers à m'en faire gonfler les artères. Comment tu ris, comment tu parles, comment tu manges mon visage. J'aime bien tes caprices et puis aussi le goût de ta pisse. J'ai un petit peu l'amour furieux. Désolé, je peux pas faire mieux. Si tu veux, je te file un rein. J'en ai rien à foutre de rien. Tu me rends débile, c'est pas facile. J'ai juste envie de rester docile. Juste envie de rester docile. J'aime ton haleine du matin. Comment tu tripotes mes seins. Reste encore sous les draps. Dehors il fait bien trop froid. Je t'en prie ne me laisse pas. J'en peux plus de Noël le roi. J'ai un petit peu l'amour furieux. Désolé je peux pas faire mieux. Tu peux me présenter ton père. Moi je m'en branle le cul par terre. Je m'en branle le cul par terre.
Vous êtes de retour avec le gang des hystéries. Youpi! Donc aujourd'hui, on est parti pour faire une petite discussion autour de la question de, justement, séduction, violence, c'est quoi la différence? Et puis décryptage un peu des discours qu'on a pu avoir ces derniers temps sur ce sujet-là. Alors, je ne sais pas si l'un ou l'autre, vous voulez nous faire un petit point sur c'est quoi la différence entre la séduction et la violence?
C'est une grosse si on charge pour rentrer dedans. Là, ce serait bien, ouais, ce serait de mettre un contexte déjà à tout ça. La raison pour laquelle on parle de tout ça, c'est vraiment suite à il y a eu une espèce de raz-de-marée de libération de la parole avec l'affaire Weinstein, ce gros producteur hollywoodien où il a été révélé qu'il agressait, harcelait sexuellement des femmes pendant des années, pendant des décennies, et ça a montré que c'était quelque chose qui se passait pas seulement avec lui, mais aussi bien dans toute l'industrie hollywoodienne et dans toutes les autres industries, dans nos quotidiens et dans toutes les classes, et que ça touchait vraiment des femmes de toutes les origines, de tous les milieux. Et depuis, donc du coup, il y a eu un hashtag qui s'est lancé, le hashtag MeToo.
Donc qui veut dire voilà. Moi aussi.
Voilà.
Donc, moi aussi j'ai été agressée, moi aussi j'ai été harcelée, moi aussi j'ai été victime de viol. C'était ça que les personnes voulaient dire. Et puis vas-y, continue.
Oui, voilà, complètement. Et Internet a beaucoup aidé là-dessus sur ce sujet. Il y a eu un autre hashtag qui s'est lancé après, francophone, oui. Oui,
je tiens juste à faire une petite parenthèse, ouais. Parce que suite à l'affaire MeToo, il y a pas mal de propos qui ont été relayés, qui étaient faux. En fait, le hashtag MeToo, il était né, c'est un mouvement qui existait déjà depuis 11 ans et qui a été initié par Tarama Burke, il me semble, qui est une afro-féministe américaine. Et en général, les gens ont tendance à accorder le mérite, entre guillemets, même si j'aime pas parler en ces termes, à Alyssa Milano, Rose McGowan, etc., qui sont des actrices américaines, alors que ça existait déjà.
Oui, complètement.
Donc voilà, je faisais cette petite parenthèse.
Oui, complètement. Disons qu'il était popularisé à mort avec les réseaux sociaux, avec cette affaire-là. Mais oui, il y avait déjà justement cette idée d'utiliser cette phrase « Me too », moi aussi, pour dire que c'était pas quelque chose qui arrivait à quelques individus, mais bien quelque chose qui touchait 50% de l'humanité. C'est pas rien. Et après, il y a eu un autre hashtag, c'était « Balance ton porc », où là, c'était plus spécifique. C'était l'occasion pour les femmes de parler de leurs agresseurs, de parfois les nommer, c'est toujours de mettre la lumière sur tout ça. Et donc du coup, ça a lancé cette espèce d'énorme débat sur les hommes se sont interrogés soudainement en disant « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que... En fait, on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on pensait qu'on pouvait, en fait. »
un peu une sorte de perte de légitimité, c'est-à-dire de questionnement sur qu'est-ce qu'ils avaient ou non le droit de faire, et qu'à un moment, il y a une limite qui leur était posée, et que cette limite, elle n'avait pas été posée avant, en fait.
Complètement, oui.
Et c'est ce questionnement-là, je pense, qui est ressorti. Et vas-y, continue, parce que je t'arrête à chaque fois.
Non, c'est très bien. Et... Et depuis, la conversation, vu que tout le monde s'est emparé de ce sujet, elle s'est parfois dispersée. Là, ce que je remarque, j'ai remarqué ça avec regret, c'est que beaucoup d'hommes ont détourné le sujet. On parle voilà, de femmes qui vont parler de violences sexuelles, qui vont parler vraiment de quelque chose qui n'ont... Ouais, bon, le mot-clé, c'est bien violence. Et beaucoup d'hommes ont ramené ça à eux en disant oui, mais et la séduction dans tout ça? Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je peux faire pour avoir droit à mes relations? Et du coup, c'est quelque chose qui était un peu. C'est très révélateur, je trouve, déjà, de la façon dont on va silencier la parole des femmes.
Alors, silencier, c'est-à-dire oui. réduire au oui. silence oui. la parole de l'autre?
Oui. et des victimes en général. Et pour mettre la voix des personnes dominantes dans ce cas
et des agresseurs en voilà. fait plus en avant qu'autre chose. Moi ce dont je me souviens aussi à ce moment-là, c'est qu'il y a aussi des hommes qui commencent à dire moi aussi j'ai agressé des femmes et oh là là qu'est-ce que je suis désolée ouin 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 oui. je suis vraiment triste d'avoir agressé des femmes et en fait ils se rendaient pas compte qu'en fait à ce moment-là il y avait des femmes qui parlaient pour la première fois et qui en fait avaient pas du tout envie de voir ça, et si eux ils avaient à régler quelque chose, mais qu'ils aillent se dénoncer à la police ou bien qu'ils prennent contact avec la personne peut-être en privé, ou qu'ils aillent de trouver une personne médiatrice qui pourrait en tout cas faire que les choses elles se fassent autrement, mais qu'ils aillent étaler ça du genre je suis un super héros qui admet que je suis un violeur. Bon, finalement je pense que les victimes c'était pas ça qu'elles avaient envie de voir, en tout cas à l'époque.
Oui, complètement. Ah oui, carrément. Mais le truc c'est que voilà, et tout ça ça a dévié du coup la conversation sur la séduction et tout ça, et ça a fait cette espèce d'amalgame en disant puisque vous dénoncez la violence, ça veut dire qu'on peut plus draguer, et il y a une espèce d'énorme malentendu étrange qui s'est mis en résulté voilà des tribunes, beaucoup de tribunes d'hommes, de mecs pour dire oui bah moi je demande le droit à importuner les femmes et ce genre de choses, et après justement comme ce que tu disais tout à l'heure, bah, il y a eu cette fameuse tribune cette fois par contre signée par des femmes.
Ouais.
Donc Catherine Deneuve.
Oui. Donc Catherine Deneuve, ouais, c'est une tribune signée par 100 femmes avec Catherine Millet, Ingrid Cavan, Catherine Deneuve, et donc le titre de la tribune, alors qui a été modifié par Le Monde, paraît-il, mais c'était « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle ». Voilà, ce qui pose beaucoup de questions quand même, rien que dans ce titre, l'idée que finalement... le fait de dénoncer des violences sexuelles atteignait une sorte de liberté à la sexualité. Voilà, ça pose quand même beaucoup, beaucoup de questions. Et on est là plus du tout en train de considérer l'idée que ce qui était dénoncé, c'était des violences, en fait.
Et, oui, ouais. Et puis autre chose aussi, c'est qu'il y a tout le temps l'argument de la misère sexuelle des hommes qui est amené là sur la table, et c'est... C'est horrible.
Oui,
je sais pas.
Oui, et puis après, alors en gros, parce que j'avais vu un bel entretien de France Culture avec, j'ai perdu le nom de la personne, mais je le retrouverai pendant ma pause, qui parlait du fait qu'en fait, elle va dans une maison d'édition et que, en gros, on lui dit, oui, tes personnages pour ton livre, ça va pas du tout, ils sont pas assez victimes, elles parlent pas assez de leur trauma et de comment l'existence est dure quand on est une femme, etc. Et donc là, elle se dit, oh là là, mon Dieu, il se passe quelque chose de problématique, et elle appelle toutes ses copines et toutes, elle décide de me faire en fait cette tribune en disant que finalement le fait de dénoncer ces violences sexuelles revenait à une sorte de retour de l'ère morale, d'un ordre moral et d'un puritanisme et donc que ça empêchait la création, l'idée de dénoncer les violences en fait. Ça a été ça, en fait, leur discours principal. Et en fait, moi, je trouvais que ça a posé une réelle question de... Parce qu'en même temps, elles disent, oui, non, mais on est contre les violences, mais finalement, on n'est pas contre l'idée qu'il y a un baiser volé. Et en fait, ça, moi, je me demande, c'est qu'un baiser volé. En fait, si tu as envie d'embrasser quelqu'un, c'est quelque chose qui se passe mutuellement. Je crois qu'on est dans du partage, dans un truc comme ça. Je pense que plaquer une meuf contre le mur et lui foutre sa bouche sur sa bouche, c'est pas le truc le plus kiffant. Et que si elle en a envie, finalement, il y a des signes, en tout cas, qui sont là. Et qu'à un moment, il faut peut-être faire attention à l'autre. Et que sinon, on est dans la violence, en fait. Et pareil, elle me disait oui, parce que l'un des trucs qui était dit dans le hashtag Balance son port, c'était des personnes qui dénonçaient leur patron qui négligemment mettait la main sur leurs genoux, etc. Et en fait, il faut rappeler que dans un rapport hiérarchique, Au niveau du travail, on ne peut pas en fait se permettre de tripoter ses salariés quand on a ce rapport-là, parce qu'il y a une sorte d'abus d'autorité et que c'est interdit en fait d'aller tripoter ses salariés, que c'est interdit d'essayer d'embrasser ses salariés et que rappelons-nous un peu de comment les choses doivent se passer. Et même si c'est dans un cadre en dehors du travail, globalement non, mettre sa main négligemment sur le genou de la personne, ben non, demandez-lui, peut-être que au moins comme ça vous serez sûr. Mais il y a un rapport d'autorité qui est tel que, qui est un rapport de domination en fait, qui fait que c'est beaucoup plus difficile en tout cas pour les femmes de dire non, quoi. Et je pense que c'est là-dessus que se repose aussi la différence entre séduction et violence, c'est que le rapport de domination, il est aussi fort là-dedans, quoi.
Oui, oui.
Bah, j'en sais rien.
Oui, non, mais c'est... oui, désolé, on est pendu à tes lèvres. mais oui, mais... et surtout, ce qui est aussi quelque chose qu'il faut critiquer... là-dedans aussi, dans cette pensée, c'est comme si la violence était quelque chose de forcément lié à la séduction, comme si l'un ne pouvait pas exister sans l'autre. Oui, oui, pardon, oui, désolé, oui, je parle très loin du micro. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut interroger et que je pense, en tout cas, selon moi, déconstruire surtout parce que c'est très problématique, bon, voilà, de considérer que des choses comme un baiser volé ou une main aux fesses, c'est quelque chose qui fait partie de la séduction. Surtout quand on voit que ça va que dans un sens, on parle beaucoup moins d'hommes qui se font suivre par des meufs, qui vont réclamer un petit baiser comme si par là, au bout d'un moment. Déjà, ce serait quelque chose qui ne serait pas acceptable en temps normal.
Oui, et qui, même si ça existe, n'est pas accepté non plus, en fait, mais qui est largement majoritaire dans l'autre sens. C'est-à-dire que majoritairement, c'est quand même des femmes qui se font agresser, harceler, violer, et qu'à un moment, il faut aussi reprendre ce sens des réalités-là dans nos sociétés, quoi. Et je t'ai coupé la parole.
C'était à peu près ce que je voulais dire.
Et après, moi, il y a un autre truc qui m'aussi parce que quand je relisais le témoignage de la personne, c'était qu'elle parle d'excès, en fait, cette idée de, mais finalement, oui, c'est bien que les femmes puissent dire qu'elles ont été victimes, mais en fait, il y a un excès et ça va trop loin. Et en fait, moi, j'aimerais juste qu'on se rappelle quand même de quoi on parle, c'est-à-dire que je pense que je sais plus, je crois que c'est toi, Donald, qui me disais que c'était un peu une posture d'être de salon, un peu, de dire tout ce genre de choses, qu'on voit aussi que ça s'est ancré dans une forme de féminisme très blanc, très bourgeois et très
déconnecté
d'un sens des réalités, parce que je pense que oui, au quotidien, en fait, là elle parle peut-être d'excès, mais en fait il y a un excès quand on a 16 ans et qu'on est dans le métro et qu'il y a des mecs qui commencent à glisser des mains sur tes genoux et que tu comprends pas où t'habites. Je pense que il y a des excès aussi quand tu te prends ta première main aux fesses, et que quand t'es une fille, tu sais très bien que ça t'arrivera une autre fois, et qu'il y a des excès quand t'es victime d'agression sexuelle, puis de viol, puis etc. Et en fait tout ça aussi, c'est des excès. Et moi, je me souviens que j'avais un peu ce truc en lisant cette tribune, de me dire, mais en fait, tant mieux que les hommes, ils ont peur 5 minutes, en fait. Tant mieux, parce qu'en fait, moi, ça a été mon quotidien pendant hyper longtemps, et qu'à un moment, on peut changer la balle de camp. Alors, je trouvais que c'était un peu plus juste aussi de dire, ben, parlons d'excès, si vous voulez, mais il y a toujours ce truc de, on a peur du changement, quoi. Là, on est hyper effrayé au début, ça fait rire, c'est quelques féministes qui se rencontrent, on trouve ça ridicule, en fait, de parler des violences sexuelles. Maintenant, ça fait peur, et puis dans 10 ans, ça paraîtra normal, quoi.
Non, mais d'autant qu'en plus, ce qui se passe en ce moment, ça a été énormément présenté dans les médias comme étant « ça y est, les femmes dénoncent enfin, on les entend enfin, nanana ». Bah non, en fait, les gars, ça fait... On a toujours, en fait, gueulé, on a toujours raconté les violences qu'on vivait dans les années 70. Il y a quand même eu des mobilisations de féministes contre le viol. Enfin, il y a eu Paige Hachnek, enfin, plein de mouvements qui ont dénoncé les violences sexistes, etc. Et c'est juste que là, on a plus ou moins commencé à accepter l'idée de nous écouter. Et c'est pas du tout la même chose que de dire que ça y est, on a enfin décidé de parler. Et voilà, ça m'énerve.
Bon, tu sois énervée. Non, mais c'est cool après qu'on ait aussi trouvé un médium. Mais c'est aussi, comment aussi dans des petits milieux, on va donner la parole plus à certaines femmes qui vont aussi aller dans le sens des hommes blancs... cisgenrés, c'est-à-dire nés avec un pénis et qui se définissent comme hommes, hétérosexuels et bourgeois, quoi. C'est-à-dire, ah ben oui, c'est bien, on va donner une place à cette tribune de 100 femmes populaires, célèbres, qui, voilà, vont faire ce petit truc de faire, entre guillemets, le buzz pendant un certain temps et qui ne vont pas penser, en fait, ce qui se passe dans la réalité pour les femmes au quotidien, quoi. C'est-à-dire que venez écouter les femmes, en fait, on a un peu envie de leur dire aussi. Et que, ouais, je trouve que elles ont cette place-là parce qu'elles peuvent l'avoir, comme Natacha Polony qui dit « Non, mais maintenant, on n'a plus le droit de séduire pour les hommes. » Ben oui, si, en fait, je pense que peut-être qu'on peut revoir comment on séduit, peut-être qu'on peut repenser nos méthodes de séduction. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait repenser dans notre société, un peu d'imagination, peut-être.
Le consentement, c'est important.
Oui, alors, c'est ça.
Hey, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. Tu parles du fait que ce soit bien qu'on ait enfin un médium, que notre parole soit reléguée dans les médias, etc. Oui, mais on demande quand même à peu près tout le temps l'avis des hommes sur cette histoire. On a Catherine Deneuve dans Le Monde qui va signer cette horrible tribune dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est quand même à chaque fois, soit on demande l'avis de féministes, de femmes blanches bourgeoises qui vont parler à des femmes blanches bourgeoises, soit on va demander à l'avis à des hommes, en fait. Donc il y a quand même, c'est cool qu'on ait c'est cool qu'il y ait un relais médiatique autour de tout ça, mais c'est clairement pas encore gagné, quoi.
Non, et je pense qu'il y a en plus toujours une demande de justification, c'est-à-dire et qu'on est encore, en fait, la justice française, contrairement à la justice américaine, elle demande à ce qu'on prouve qu'il n'y avait pas consentement. Donc, alors, consentement, c'est l'idée que la personne soit d'accord. Alors, certains vont le définir comme un oui enthousiaste mais joyeux, un oui. Voilà. Est-ce que tu as envie de coucher avec moi? Oui. on pourrait faire ça. Alors, bon, voilà, je le dis en mode humour. Après, il y a d'autres manières d'établir le consentement de l'autre. Après, voilà, on peut aussi voir les signaux si la personne ne pleure pas. Ah, voilà, alors si elle pleure, ça veut dire qu'elle n'est pas consentante. Non, mais alors après, moi voilà, ma pratique c'est aussi d'écouter des femmes, donc je peux vous dire que par exemple, ça c'est des choses que les garçons parfois ils ont encore à apprendre, ou bien si elle est tétanisée et ne bouge pas et regarde le plafond, peut-être posez-vous des questions, est-ce qu'elle est vraiment d'accord? Si elle a l'air pensive, pas là, triste, si elle ne fait aucun mouvement, si elle ne vous touche pas, si tout ça, n'oubliez pas, la sexualité c'est un temps de partage, ça peut aller dans les deux sens, voilà. Et si vous voyez que la personne, elle n'est pas forcément à l'aise, vous avez le droit de prendre le temps. Et donc, je pense que le consentement, voilà, il peut s'établir de manière orale. Alors, attention au rapport de domination, si vous êtes le patron et que vous demandez ça à votre secrétaire, parfois, elle ne sentira pas le choix de dire non. Et donc, elle vous fera un petit oui pincé qui n'est pas un oui joyeux et expressif, hein, voilà. Donc, bon, voilà, repensons au rapport de domination aussi, à qui on demande ce type de rapport, et voyez un peu physiquement, est-ce que la personne vous ouvre les bras et a envie de vous ou pas? Mais posez-vous cette question-là, je pense que... Et la sexualité, on a le droit de prendre le temps. On a le droit aussi d'être passionné, mais on a le droit de prendre le temps aussi. Voilà, c'était juste pour préciser ce que c'était le consentement, parce que souvent, c'est un concept quand même qui peut sembler assez flou. Et il y a une super vidéo qui est une vidéo de la tasse de thé.
Oui.
Alors que vous pouvez trouver sur YouTube pour faire un peu état du consentement et qui est assez chouette et qui peut vous expliquer un peu du genre, quand une personne dort, elle n'est pas consentante. Hein, voilà, je pense que, voilà, qu'on se rappelle un peu les basiques et après, ça va même plus loin. Donc, c'est assez chouette pour se rappeler tout ça. Donc, voilà, et mettre une main sur la cuisse d'une personne qui n'est pas d'accord, ben c'est pas, il y a pas de consentement, ou bien vouloir embrasser une personne qui n'a pas l'air d'accord et qui, ben non, on le fait pas, mais on peut demander. Et ça peut être aussi sexy, en fait, le consentement, je pense, à un moment, pensez-y.
Oui, et même si c'était pas sexy ou quoi, on s'en fout, c'est obligatoire, en fait, c'est...
Merci.
On peut pas avoir de relation, en fait...
Voilà. Non, mais attendez, j'essaye de vous le vendre quand même, moi, je mets un paquet cadeau, quoi.
Non, mais clairement, c'est, par contre, c'est évident, en tout cas, qu'il faut... si on considère que le consentement n'est pas sexy, c'est qu'on a un problème déjà avec notre notion de la sexualité, en fait. Si, à partir de là, je pense qu'il faut déjà se poser, se regarder dans la glace, et se dire, poser quelques questions sur ces questions-là, en fait.
Ouais. Alors ça, ça me fait penser parce que l'un des arguments de la tribune des 100 femmes qui demandaient le droit d'importuner, etc., c'était de dire non, mais si on les écoute, on se rend compte qu'on a tous fait et toutes fait des choses qui sont répréhensibles par la loi. Alors je voudrais dire à tout le monde, en fait, oui, effectivement, pour la majorité d'entre nous, on a fait des choses répréhensibles par la loi. C'est-à-dire que, en fait, le consentement aujourd'hui dans notre société, on ne nous l'apprend pas. Ça vient pas du ciel, en fait. Et donc c'est un truc de l'ordre de l'apprentissage. Et oui, bien sûr. Enfin, moi, je me souviens qu'en étant ado, j'ai pu vouloir forcer quelqu'un à m'embrasser, et c'est pas bien. Et oui, en fait, à un moment, c'est juste de pouvoir se dire qu'on a tous et toutes fait des erreurs et qu'on ne les recommence pas, plutôt que de dire « Ah merde, j'ai fait une erreur. Ben, » alors, ça veut dire que c'est eux qui ont tort et que c'est moi qui ai raison, parce que je veux pas admettre que j'ai fait une erreur. En fait, on en fait tous et toutes. Et en fait, ça se travaille. Et je pense que le consentement, c'est aussi un travail au quotidien. Voilà, je t'ai totalement coupé pour faire cette maxi-parenthèse.
Oh non, mais elle était très bien. J'ai complètement oublié ce que je disais au début, donc il n'y a pas de souci.
Est-ce qu'on ne mettrait pas une petite musique ouais. Pour reprendre après? Et comme ça, Donald, tu auras le temps de retrouver la fin de ta phrase. Et donc là, on va écouter alors une chanson, gros warning. Ça parle vraiment de viol de manière un peu trash. Donc si vous n'avez pas vraiment envie d'écouter ça, vous pouvez vous dire que ça dure 3 minutes 20. Donc au moins comme ça, vous pouvez soit changer de chaîne, soit faire autre chose pendant ce temps-là et nous rejoindre dans 3 minutes. Donc c'est Petra Pied de Biche, Violeur.
Je suis un type super sympa, cultivé, un art, tout ça. Tout le monde m'aime bien, et y'a de quoi. Je suis quelqu'un de bien, tout le monde c'est ça. Je suis quelqu'un de bien, tout le monde c'est ça. Cette nuit-là, elle était là, dans le lit d'à côté. Autant dire dans le mien, ma queue s'est redressée. J'en avais envie, je me suis servi, j'en avais envie, je me suis servi, j'en avais envie, je me suis servi, j'en avais envie, je me suis servi. Violeur, ordure, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent, et t'invite encore à bouffer. T'invite encore à causer. Politique, lutte des classes, actualité. Violeur, ordure, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent. Et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer, comme si de rien n'était. Alors elle s'est tue et j'ai pu la baiser. Peut-être qu'elle n'était pas d'accord tout d'abord,
mais l'appétit vient en mangeant, c'est ce qu'on dit tout le temps.
Et puis quand même c'est bien connu, cette fille-là elle aime le cul. Et puis quand même c'est bien connu, ce type-là il aime le cul. Et puis quand même c'est bien connu, cet enfant-là aime le cul. Et puis quand même c'est bien connu, tout le monde aime le cul. Ben oui. Violeur, pourriture, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent. Et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer. Jardinage, cuisine, cinéma expérimental. Violeur, pourriture, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent. Et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était.
Le gang des hystéries.
Bim.
Le gang des hystéries, une chouette émission de Micro Rebelle sur PFM 99.9.
C'est de retour avec le gang des hystéries. Alors, on a eu un petit souci, on n'a pas su, on était un peu dans le doute. Reprend-on, ne reprend-on pas? Voilà. Alors, vas-y Flo, je te laisse le flow.
Oh là là, merci pour ce jeu. Oh,
excusez-moi, pardon.
Bah non, on se disait juste qu'on allait reparler de misère sexuelle et que Donald avait retrouvé ce qui... Silver, pardon, avait retrouvé ce qu'il voulait dire.
Oui, tout à l'heure, on est passé très rapidement sur ça, t'as parlé de la misère sexuelle, c'est ce concept ouais, qui est souvent brandé dans ces tribunes. Justement.
Alors ça veut dire quoi, misère sexuelle?
Voilà,
déjà
c'est ça que déjà, c'est intéressant d'analyser ça, parce que c'est souvent utilisé comme excuse en fait. La misère sexuelle, ça voudrait dire que des hommes ont le malheur, souvent d'ailleurs la misère sexuelle des hommes, très peu des femmes, alors que pourtant la majorité des femmes en couple hétérosexuel n'arrivent pas, ne sont pas données d'orgasme par leur partenaire, du coup, parlons-en de misère sexuelle, mais bref. Concernant le concept de misère sexuelle masculine qui est brandi dans ces tribunes, on parle d'hommes qui n'arrivent pas à trouver de partenaires qui accepteraient de coucher avec eux, alors que pourtant ils sont gentils, mais ils sont les pauvres, ils sont un peu délaissés par la vie, ils essaient, mais les femmes... ces vilaines tentatrices méchantes ne veulent pas du coup leur donner leur dû. Il y a cette espèce de notion de dû qui est liée à la misère sexuelle, parce que c'est un concept que je trouve vraiment extrêmement étrange en fait, et qui est... Oui.
Bah oui, mais et en plus ça donne une image des hommes comme des tubes géantes qui ont juste envie
alors
de...
Alors des pénis géants.
Oui, des pénis géants qui veulent faire du sexe absolument tout le temps et qui pleurent le soir dans leur chambre dans le noir. Je lui ai fait un sourire et elle a pas voulu qu'on fasse du sexe. Oh là là. Enfin c'est horrible en fait, et comme tu le disais, et nous on jouit pas, bordel. Enfin, genre c'est... Pour qui est-ce qu'on peut parler de misère sexuelle dans ce cas-là, quoi ?
Oui, et puis c'est une sorte de droit avec un grand D à la sexualité, alors que bon, après, si t'as vraiment un manque, tu peux faire ça tout seul, quoi. Il y a des trucs vachement bien qui existent.
Il existe la main droite ou la main gauche, si vous êtes gaucher.
Et puis il y a des formes, des petits jouets aussi,
oui,
assez sympas.
Oui, plein de choses.
Informe-toi, je t'assure, toi, homme blanc, cis, hétéro, je t'assure que tu peux trouver des choses merveilleuses sur les internets.
Et après, voilà, ça veut pas dire non plus que, parce que là, on en rigole, on se moque un petit peu, tout ça, mais ça veut pas dire qu'il y a des moments, des vrais moments de détresse et de solitude, que ce soit misère, et pas forcément que sexuelle, mais aussi affective, et je pense qu'il y a des sortes de choses qui existent, mais ce n'est en aucun cas une excuse, en fait, et qui, ça n'a aucun rapport avec les questions des violences sexuelles dans ces moments-là. En fait, il y a plein de sujets qui peuvent rentrer en jeu. Il y a des personnes qui vont se retrouver isolées. Ça va être pour plein de raisons. Ça peut être des problèmes de psychologiques, d'handicap, de...
Oui, et moi, je ne parlerai pas de misère. Dans ce cas-là, en fait, je trouve que le terme, il est pas approprié. C'est qu'on a tous, oui, après, des choses... un besoin de contact physique, affectif, etc. Et que, oui, je pense qu'en fait, oui, les gens ont droit à ça, mais pas forcément quelque chose qui serait de là à pénaliser en fait les autres, et comme si les femmes avaient un devoir d'offrir en fait, de donner, parce que les hommes prennent et les femmes donnent de la sexualité. Et en plus, on parle pas, enfin là en fait, quand on parle de misère sexuelle, on va pas se mentir, en fait on parle pas non plus en fait des personnes qui sont dominées, potentiellement qui ont des problématiques psychiques ou qui sont dans des classes populaires, dans un isolement, dans tout ça, qui ont ces problématiques de ne pas accéder à la sexualité. Et là, on parle quand même de la misère sexuelle des hommes bourgeois blancs. Et en fait, on est toujours dans ce même argument qui est quand même situé quelque part, en fait. Il n'est pas dans le vent. Et en fait, on ne parle pas de la vraie problématique. Oui, parfois, il y a des gens qui n'ont pas accès à la sexualité du fait de leur domination. Et ça, c'est un réel sujet. Mais je pense qu'en fait, parler de la misère sexuelle... des bourgeois blancs, moi, ça
m'est un peu problématique.
Mais
en
oui,
fait.
Et en fait, la, quand ils parlent de misère sexuelle dans ce genre de tribune, en excuse, en fait, c'est juste un moyen de plus à chaque fois de retirer le projecteur qui, pour une fois donné aux victimes en ce moment, pour le redonner sur les agresseurs. On va toujours parler d'eux et non pas des victimes, en fait. Et non, c'est pour ça, ouais, c'est quelque chose, oui, t'as bien fait d'en parler tout à l'heure, Florence. C'est vraiment un terme qu'on entend très souvent, mais qui, en tout cas pour moi, n'a pas lieu d'être, en fait. C'est un faux sujet.
Oui, et puis c'est toujours donner la couverture aux mêmes personnes. Et je pense que cette histoire, elle est révélatrice quand même des rapports de domination qu'il peut y avoir dans les milieux féministes et comment tous les milieux féministes, ils sont traversés par tout ça. C'est-à-dire qu'on pense de là où on est, de là où on existe et de là où on vit. C'est-à-dire qu'on a un point de vue situé. C'est Bell Hooks qui en parle beaucoup, qui est une afroféministe américaine, en fait, qui dit qu'on a... Elle parle du point of view, en anglais, voilà, avec ouais, mon bel accent. Point de vue, voilà, tout simplement. Oui, oh, ça va, c'est bon, j'essaye un peu de la péter, je suis bilingue. Et donc, en fait, en gros, elle va dire que comment on se positionne dans la société... c'est situé socialement. Mais après, on peut aussi... Par exemple, moi, je suis blanche et les questions... voilà, j'essaye d'être attentive aux questions de racisme et je trouve que les mouvements afroféministes, je trouve que c'est chouette et que je suis pour que les copines qui vivent le racisme au quotidien, elles s'unissent et qu'elles puissent aussi faire des choses entre elles. Et donc, c'est un moment aussi de se décentrer de soi, c'est-à-dire à un moment de se dire mais en fait ma voisine elle vit quoi, la dame au fin fond de Hesdin elle vit quoi, la dame au fin fond de Liévin dans tel quartier elle vit quoi, et qu'à un moment on arrête de se dire moi mon vécu à moi ben peut-être que mesdames décentrez-vous et allez voir un peu ailleurs comment ça se passe.
Ouais, et puis c'est aussi savoir se regarder dans le miroir et avoir conscience de ses privilèges en fait. Et c'est pas facile, et oui, on se rend compte qu'on est bourré de privilèges par rapport à d'autres, et que c'est pas facile de faire ce chemin-là forcément pour tout le monde, mais c'est ultra important, en fait. Et voilà.
Et reconnaître qu'on a des privilèges, c'est on utilise ce terme pas mal, voilà, en conversation assez militante. Le concept de privilège, ouais, c'est pour illustrer ce que disait Loïse, c'est réaliser que le vécu des personnes de notre entourage ou pas ne va pas être le même que notre, mais ce n'est pas quelque chose où on doit avoir honte. C'est pas un problème en soi, c'est juste un état de fait. C'est reconnaître que on n'a pas la même vision des choses. En fait. Et
qu'on rencontre pas les mêmes freins, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes hétérosexuel, dans votre vie, on va toujours vous dire si t'es un garçon, t'auras une amoureuse, et si t'es une fille, t'auras un amoureux. Et puis, en tant que personne hétérosexuelle, jamais ça vous n'aurez à le questionner, et jamais vous aurez à dire à votre interlocuteur ou votre interlocutrice en fait, c'est pas exactement comme ça que moi je le vis. Et en fait, le fait de ne pas être hétérosexuel, ça oblige à devoir dire ce genre de choses. Mais il faut savoir que c'est pas évident, c'est-à-dire que de devoir dire à ses amis, à ses parents, que finalement, non, on n'a pas un amoureux, ou bien non, on n'a pas une amoureuse, mais en fait, on est amoureux ou amoureuse d'une personne du même sexe, ça peut avoir des conséquences dans notre vie. Des conséquences comme parfois, être exclu de chez soi, ou bien que les gens, ils nous rigolent au nez, ou bien qu'ils nous disent des phrases un peu débiles, genre c'est parce que t'as pas trouvé le bon. Oui, voilà. Et donc, en fait, tout ça, c'est-à-dire que ce qu'on vit, ça va pas être reconnu ou légitimé, ou on va pas nous accorder de vivre ce qu'on vit. Ça peut être pareil pour une personne qui n'est pas blanche. Elle aura beaucoup plus de contrôle de police qu'une personne qui est blanche. Et donc, c'est de se dire, finalement, mon rapport à la police, il n'est pas le même parce que j'ai pas eu ce vécu-là. Ou bien d'être une femme, juste de se dire, quand on a un entretien d'embauche, qu'on nous demande, est-ce que vous pensez avoir des enfants bientôt ? Ça, c'est une chose qu'on n'a pas quand on est un homme et dont on se rend pas compte. Et donc, c'est ça. C'est un moment de se dire, s'il y a quelqu'un qui postule à ma place, peut-être qu'il ou elle vivra ça, qu'il ou elle vivra des discriminations, qu'il ou elle... Et donc, tout ce que nous, on vit pas comme discrimination et comme frein, on appelle ça des privilèges. J'ai essayé d'expliquer... Oui.
Parfait, là vous pouvez pas voir que c'est de la radio, donc du coup j'ai l'air bête avec mes pouces en l'air, mais c'est ce que je ressens. Donc pouce en l'air, Loïse.
Mais il y a ce questionnement à propos des privilèges, et au-delà de ça, c'est aussi de se dire que je trouve que ça donne aussi cette idée qu'on pense pas toutes pareilles, mais comment on peut faire comment on peut créer du commun, comment on peut faire de l'ensemble malgré tout. Moi, je trouve que c'est ça qui m'est difficile. C'est-à-dire qu'en voyant une tribune comme ça, ça me fait penser à, d'accord, comme on l'avait dit à la dernière émission, il y a plein de types de féminisme. On est toutes féministes et tous féministes de manière différente. Et par exemple, il y a des gens qui peuvent dire, ben, les hommes, ils ne peuvent pas être féministes, mais seulement pro-féministes, c'est-à-dire pour les féministes. Mais eux, ils ne peuvent pas l'être eux-mêmes, vu qu'ils ne vivent pas les dominations. Voilà, il y a plein de choses et plein de mouvements différents à ce niveau-là. Et c'était comment on peut faire ensemble. Vous avez des idées ou...
Bah, pour moi, c'est une question qui est vraiment très compliquée, parce que j'entends totalement ce que tu veux dire. Et en même temps, demander à des personnes queer d'aller défiler.
Alors, ça veut dire quoi,
queer? Oui, ben, LGBT, lesbienne, gay, bi, trans. D'aller défiler avec des féministes blanches bourgeoises, homophobes. C'est un peu compliqué dans la mesure où je vois pas comment on peut créer du commun avec des personnes qui sont fondamentalement contre ce qu'on est. Mais c'est vraiment une question, hein. C'est pas.
Bah, alors après, moi, je sais pas, c'est juste par exemple sur la chronique des 100. Est-ce que ces ennemis qu'elles sont homophobes?
Non.
Ou...
Non, en effet. Déjà, elles sont juste... droite, mais...
Oui. Alors, effectivement. Mais c'est vrai que oui, comment politiquement, est-ce que l'important, c'est un objectif en commun? Est-ce qu'on peut créer du commun? Moi, c'est... Alors après, je parlais de ça aussi parce que j'avais vu la chronique de... Alors, vous m'avez repris tout à l'heure de Maïwenn, c'est ça?
Maïwenn.
Maïwenn, ouais, d'accord. Donc, qui est une réalisatrice, actrice, etc., et qui était là du genre chacun doit pouvoir souffrir de ce qu'il veut et comme il veut, quand il veut, arrêtons de nous critiquer, etc. Alors moi, il y a des choses que j'étais un peu, parce qu'en fait, en gros, elle se met un peu entre le hashtag balance ton porc, hashtag MeToo, et un peu entre la chronique des 100. J'ai trouvé ça étrange comme position. C'était en fait, ce qui me gêne, bon, déjà, il y a des thématiques des termes qu'elle utilise comme fille facile qui me gênaient dans sa chronique, du genre, comme les donjouans, les filles faciles n'existent pas. Cette idée, parce que, on met plein de choses derrière ce truc, et en fait, je pense que là, en tout cas, il y avait un réel problème et une réelle faille linguistique, en fait, entre de ce dont on parlait, cette idée de repenser nos normes de séduction. Est-ce que c'était forcément dire aux autres qu'elles n'avaient pas le droit de souffrir ou pas le droit d'exister? C'était plus leur dire, recentrons le débat. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui ont été dites qui étaient hyper, hyper dures et hyper violentes. Moi, je pense notamment à ce qui avait été dit par Brigitte Lahaie sur une émission quand elle était face à Caroline De Haas. Ou je sais pas si vous vous souvenez, où elle avait dit que Caroline De Haas qui disait qu'on, je sais plus ce qu'elle disait, un truc sur le viol, et en fait là Brigitte Lahaie qui a commencé à dire oui, mais on peut jouir pendant un viol. Alors, ce qui est effectivement vrai, qui peut être un trauma pour plein de personnes, et je pense que ça arrive et c'est une réalité. Après, toujours est-il que il ne faut pas confondre le fait de jouir et de prendre du plaisir dans une sexualité, c'est-à-dire dans quelque chose de consenti et partagé, et de jouir pendant des violences qui peuvent avoir un impact d'autant plus culpabilisant, etc. Et je pense que c'est vraiment là, au fin fond du truc, sur séduction et violence, qu'on se sépare, mais je ne sais pas ce que...
Après, ouais, sur notre rapport avec tout ça, bah là, moi, je, du coup, pareil, tout à l'heure, on parlait de privilèges, donc là, je parle avec mon privilège masculin. Ce que j'ai vu, justement, beaucoup de... Bah, pareil, évoluant, vivant dans un milieu, dans des milieux féministes, j'ai vu beaucoup de gens réagir à cette tribune, parfois de façon très violente, et parfois, là où ça me gênait plus, c'était quand je voyais des hommes s'énerver contre ces femmes-là, et là, c'est là où ça me dérange un peu, parce que je trouve que... c'est très facile de se définir en tant qu'homme féministe et d'aller faire la morale à des femmes qui ont tellement intégré les rapports de domination qu'elles vont répéter en fait les discours des discours patriarcaux, des discours sexistes, des discours culpabilisants pour les victimes de violences sexuelles. Donc oui, moi en tout cas en tant que militant PD féministe, ça me ça me rend triste, oui, de voir ce genre de choses, parce que de la même façon, ça me rend triste et en même temps un peu en colère quand je vois des mecs homos qui vont défiler avec la Manif pour tous, qui vont militer avec le Front National, avec les Républicains, avec d'autres partis de droite, parce qu'il y a une énorme incompréhension, et pour moi, c'est pas du tout compatible. Mais par contre, je sais que dans ces moments-là, en fait, c'est pas contre eux personnellement que je suis. Je les considère pas comme mes ennemis profondément sur ce sujet-là, parce que je me dis que c'est des victimes une fois aussi de ce système-là. Tout comme je pense que ces femmes-là, elles ont des privilèges incroyables, déjà par la richesse. Quand Catherine Deneuve me parle de prendre le RER et de se faire suivre, moi ça me fait mourir de rire, parce que imaginez Catherine Deneuve dans le RERB. bref. Tout ça. Mais par contre, c'est quand en tant qu'homme, j'arriverais pas à me dire que à lui faire la morale sur des questions de féminisme, parce que elle a un vécu, quoi qu'il arrive, même de par ses privilèges, que moi je n'aurais jamais, en fait. Et donc je préfère garder ma colère envers les hommes qui préservent ce système plutôt que par les femmes qui l'ont intégré pour survivre.
Ouais, et puis ouais, je trouve qu'il y a ça. Et puis après, c'est vrai qu'il y avait ce truc où, en tout cas, Catherine Deneuve, dans une interview, elle disait oui, moi ce qui m'agace, c'est cette idée que maintenant, sur les internets, on a un peu la justice des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout le monde s'invente justicier et bourreau, etc. Et que finalement, quelqu'un dit un truc de mal et donc on va le recadrer et on va être le juge et on va le juger et on va condamner, etc. Et oui, c'est un des travers des réseaux sociaux. Après, elle dit, moi, je fais confiance en la justice. Donc voilà. Et c'est là où, tout à l'heure, je vous disais que je voulais faire un pont avec le livre d'Elsa Dorlin, c'est que la justice, ça reste une justice d'hommes blancs cis-hétéros, quoi. Enfin, à un moment, c'est-à-dire que les femmes, on va leur demander, ben, prouvez-moi que vous n'étiez pas d'accord pour avoir ce rapport avec ce mec. Et en fait, à aucun moment, on va demander aux hommes de se justifier de quoi que ce soit. Et c'est en ça qu'à un moment, il faut aussi re-questionner la justice, qui elle sert, qui elle défend, et qui a le droit d'être violent par rapport à tout ça. Et puis l'autre chose où je suis assez d'accord, c'est cette idée de oui, je peux pas détester ces femmes, et qu'à un moment, c'est comment aussi les dominations, elles se croisent. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi toute leur domination de classe là qui un peu s'étale, et que de toute façon, je pense qu'elles ne voudraient pas manifester avec nous. et que nous n'avons pas les mêmes valeurs à ce niveau-là potentiellement. Mais toujours est-il que moi, je pense que c'est un moment de se dire que parfois, si on a un objectif commun, ben, est-ce qu'on milite ou non ensemble? Comment on fait pour ne pas séparer nos luttes? Mais c'est une grosse question et j'ai pas du tout de réponse.
Ouais, j'ai pas la réponse non plus.
D'accord.
Si on l'avait, ça serait merveilleux.
Bah alors peut-être qu'on pourrait voir ça dans une prochaine émission. Je sais pas s'il y a d'autres choses que vous souhaitiez rajouter.
Non, parce que là, oui, on va bientôt arriver au terme de l'heure, mais oui, c'est répéter, parce que là, ce qu'on disait au début, c'est sur la séduction, l'importance du consentement dans la séduction, garder vraiment ça en tête pour tout rapport, et même pas forcément que les rapports hétérosexuels, parce qu'on a beaucoup parlé d'hétérosexualité, mais c'est quelque chose, moi, en tant que mec homo, c'est quelque chose que j'ai beaucoup rencontré aussi, des hommes qui pensent que la sexualité leur est due, et ça vaut aussi pour beaucoup de mecs gays, ça vaut pour des femmes lesbiennes, ça vaut pour beaucoup, dans beaucoup de relations, on va retrouver ces dynamiques-là. Après, du fait qu'on est dans une société patriarcale, ce sont des femmes qui sont en relation avec des hommes qui vont plus en souffrir, mais c'est quelque chose qui est transversal à absolument tous les types de relations. Donc, dans tous les cas, écoutez vos partenaires, communiquez, et puis voilà, amusez-vous.
Le consentement, c'est important.
Ouais. Et surtout aussi, l'autre chose au-delà de ça, c'est que si jamais on vous parle de violences dont les personnes ont été victimes, croyez-les.
Oui.
Je pense que c'est l'autre chose, c'est-à-dire que tout ça, ça a été aussi un moment de se dire les oreilles se sont plutôt enfin ouvertes plutôt que les langues déliées, en fait. Et quelle métaphore, c'est magnifique. Je pense qu'à un moment, c'est aussi de pouvoir se dire, ben, écoutez, si à un moment, il y a quelqu'un qui veut vous parler de ça, et dites-lui juste que vous le croyez ou la croyez. Et je pense que ça fait vachement de bien et qu'on oublie un peu... voilà, de ne pas questionner tout ça, parce que voilà, souvent ça concerne aussi des gens parfois qui sont proches, qu'on n'imagine pas, parce que les violences, c'est pas un homme dans une ruelle sombre avec un pistolet sur une personne. Non, non. les violences, c'est le tonton Roger qui vient te lire une histoire dans le lit le soir quand t'es petit, c'est ton pote de fac qui rentre dans ton lit, c'est ton copain qui n'en a rien à foutre de ton avis. Donc globalement, voilà, les violences, ça peut être tout ça, et c'est pas forcément quelque chose où il y a une arme ou quoi que ce soit en jeu. Je pense que c'est aussi à rappeler. Et puis, de toute façon, on fera une merveilleuse émission à ce sujet incessamment sous peu, peut-être. Et donc, là, on va conclure pour nos prochaines émissions. Donc, vous pourrez écouter cette émission sur PFM 99.9 les mercredis, troisième mercredi du mois à 20... les troisièmes samedis du mois à 11h30, les quatrièmes mercredis à 20h et ensuite le vendredi suivant entre le vendredi et le samedi à 1h du matin pour ceux qui auraient raté les autres diffusions. Et sinon sur le site de Micro Rebelle, voilà, est-ce qu'un petit mot pour conclure, un petit quelqu'un à saluer, la grand-tante Mireille au fin fond du Larzac, je ne sais pas.
J'ai absolument rien, non.
Non, aimez-vous, soyez bienveillants avec vous-même et des bisous.
Oui. Des voilà. Bisous, plein de ouais, bisous. Plein de bisous.
Plein de bisous consentis.
Oui, voilà. Des bisous consentis, des paillettes, des licornes. Et puis, prochain rendez-vous le mois prochain, à samedi prochain, de 11h30. Et puis, bonne musique. Donc là, on va vous passer Respect My Fist, Ich Blut. Ça veut dire « Je saigne » en allemand. Je ne parle pas allemand. Bisous, bisous.
Bisous.
Je sais pas.